Bonsoir Nicolas Demorand.
Bonsoir Charline et bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 de France Inter avec à 18h15 un jour dans le monde. À nouveau sur Ebola, l'épidémie continue, elle est encore hors de contrôle en dépit de l'engagement international. On fait à nouveau le point sur la situation tout à l'heure. À 19h20, le téléphone sonne sur la grève des pilotes d'Air France. Hélène Jouan attend vos questions et réactions sur ce rude conflit social au 01 45 24 7000 et sur le site internet de France Inter, www.franceinter.fr. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Florence Paracuelos pour le journal. Bonsoir Florence.
Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la réponse de François Hollande au groupe qui détient un Français en otage en Algérie. Nous ne céderons à aucun chantage, à aucun ultimatum, vient de dire le président, alors que des djihadistes affiliés à l'organisation État islamique menacent d'assassiner Hervé Gourdel, guide de montagne enlevé dimanche soir en Kabylie. Nous irons dans son village des Alpes-Maritimes où un rassemblement est en cours. Nous irons également à Washington où Barack Obama s'est exprimé après les premières frappes de la coalition en Syrie. Nous verrons cela avec notre correspondant à Washington. La grève à Air France, 9e jour, mais peut-être bientôt la fin du brouillard. Le PDG du groupe est prêt à abandonner son projet Transavia pour l'Europe. Les pilotes qui manifestaient tout à l'heure à Paris attendent du concret. Et puis LCI ne sera plus une chaîne tout info. C'est le résultat du refus par le CSA de l'avoir passée gratuite sur la TNT. Sa maison mère TF1 en profite pour restructurer et pour transformer en profondeur la vocation de LCI. Enfin, la météo orageuse dans le sud, nous dira Joël Colado à la fin de ce journal. Bienvenue sur France Inter. La France prise à son tour dans un chantage à l'horreur avec cet ultimatum qui expire ce soir. Il met en jeu la vie d'un homme, Hervé Gourdel, guide de haute montagne, enlevé dimanche en Algérie par un groupe djihadiste lié à l'organisation État islamique. Un groupe qui réclame l'arrêt des frappes françaises en Irak, sans quoi l'otage sera exécuté. Voilà le choix, ou plutôt l'absence de choix auquel la France est confrontée, puisqu'il n'est pas question de céder d'un pouce aux djihadistes. C'est ce que vient de dire François Hollande.
J'affirme ici, aussi grave soit cette situation, nous ne céderons à aucun chantage, aucune pression, à aucun ultimatum, fût-il le plus odieux, le plus abject. Car ce qui est en cause, c'est notre liberté, notre sécurité et notre souveraineté. Aucun groupe terroriste ne pourra influencer en quoi que ce soit la position de la France, la volonté de la France, la liberté de la France. Et notre meilleure réponse à cette menace, à cette agression, c'est l'unité nationale dans cette guerre, car c'en est une, contre le terrorisme.
Voilà François Hollande qui s'exprime depuis New York, pendant qu'à Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, c'est tout un village qui s'angoisse. C'est là qu'Hervé Gourdel, 55 ans, officie comme guide de montagne une partie de l'année. Le reste du temps, il vit à Nice. Et c'est sur la place du village, aux portes du Mercantour, que le maire et ses adjoints ont appelé à un rassemblement en cette fin d'après-midi. Reportage sur place, Violaine Hill.
Les habitants de la vallée sont venus nombreux, plusieurs dizaines. Tous connaissent Hervé Gourdel, qui depuis des années a lancé ici sa compagnie de guides de haute montagne. Ils organisent à partir de cette station touristique plutôt chic des Niçois des randonnées. Ils ont tenu à être là tous ensemble pour cette personnalité du village, un homme réputé souriant et proche.
C'est un enfant du pays. C'est un monsieur qui adorait la montagne et qui a fait travailler les gens d'ici, beaucoup de gens, grâce à son entreprise.
C'est quelqu'un qu'on voyait très régulièrement, qui faisait partie du tissu social et de la vie du village. Forcément, l'événement international nous touche en direct, donc ça prend une autre dimension, ça prend une autre ampleur, c'est sûr. Il avait de très bonnes raisons d'être là-bas et il n'y en avait pas pour qu'il n'y aille pas.
Il ne fallait pas qu'il parte. C'est trop dangereux en ce moment. Ça dure depuis des années. Et ça, c'est vraiment... Mais nous, on pense vraiment à la famille. On pense à lui aussi, bien sûr. Mais il ne fallait pas partir.
Fallait-il partir pour le maire Henri Juge? Les guides d'ici ont cette habitude hors saison d'emmener leurs clients dans des zones montagneuses, notamment au Maroc. Autour du maire, depuis quelques minutes, sur la place centrale du village, devant la mairie, sont arrivés des élus de la vallée. Éric Ciotti, député, enfant aussi de Saint-Martin-Vésubie. Ils ont prévu de marcher vers la compagnie des guides dans le village qui s'appelle Escapade, celle d'Hervé Gourdel, une marche silencieuse. Violaine Hill, France Bleu Azur, pour France Inter.
De Saint-Martin-Vésubie à Washington, Barack Obama s'est exprimé tout à l'heure après les premières frappes de l'Amérique et de ses alliés arabes contre l'organisation État islamique en Syrie. Jamais la Syrie n'avait été visée depuis le début de la guerre civile en 2011 et c'est le fief des djihadistes qui a été pris pour cible, la ville de Raqqa et sa région dans le nord du pays. 120 combattants islamistes auraient été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est le seul organisme à donner des chiffres sur la Syrie. Barack Obama a donc pris la parole. Bonsoir Frédéric Carbone.
Oui, bonsoir Florence.
Vous avez suivi l'allocution du président américain qui a commencé par saluer la force de la coalition, Frédéric.
Et c'est même son message essentiel, avec la participation de 5 pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie Saoudite, principale puissance sunnite de la région, et la Jordanie, qui a une frontière avec la Syrie. Le monde entier peut constater, dit Barack Obama, que ce n'est pas une guerre américaine. Autrement dit, j'ai tenu mes engagements. Pas de sanctuaire syrien pour les djihadistes de l'État islamique et pas de frappe opérée seulement par les États-Unis. Les deux piliers de sa stratégie sont ainsi respectés. Donc ce n'est pas une guerre américaine, mais seul le Pentagone communique pour le moment sur les frappes de la nuit dernière. Sans donner de détails, le ministère de la Défense affirme que ces opérations militaires ont été une réussite et que les pays arabes, justement, ont mené des patrouilles et des frappes. Quant à Barack Obama, il poursuit à New York, aux Nations Unies, ses efforts pour consolider cette coalition. Il verra pour la première fois le premier ministre irakien et plusieurs dirigeants du Moyen-Orient.
Frédéric, il faut aussi noter que les frappes de la nuit dernière n'ont pas seulement visé l'organisation État islamique. Les États-Unis ont également ciblé un autre groupe et cette fois-ci, ils y sont allés tout seuls. Ce groupe, c'est Khorasan et Barack Obama en a parlé tout à l'heure.
Oui, à écouter le président des États-Unis et les militaires américains, c'était même l'urgence. Ce groupe affilié à Al-Qaïda préparait, et là encore, il faut se contenter d'affirmations sans grand détail, un attentat en Europe ou aux États-Unis et en été à l'ultime phase des préparatifs. Ce groupe Khorasan, il est implanté dans une toute autre partie de la Syrie que le groupe État islamique. Il est dans la région d'Alep, à l'ouest du pays. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs fronts en Syrie et qu'après avoir refusé pendant 3 ans d'intervenir dans cette guerre civile, Barack Obama a engagé la nuit dernière les États-Unis dans tout le chaos syrien.
Frédéric Carbone, correspondant de France Inter à Washington. Et puis décidément, l'instabilité s'étend au Moyen-Orient. Au Yémen, la capitale, Sanaa, est désormais sous le contrôle de rebelles chiites, décidés à prendre le pouvoir. Et le président yéménite dénonce aujourd'hui un complot. Les chiites au Yémen sont minoritaires. Ils se battent depuis presque un an contre des milices sunnites épaulées par l'armée. Et puis en France, on le sait, les consignes de vigilance ont été données aux forces de l'ordre, avec une attention particulière pour ceux qui rentrent de Syrie. Eh bien aujourd'hui, ils sont 3 à avoir été arrêtés à la sortie de leur avion à Orly. Parmi eux, le mari de Souad Merah, la sœur de Mohamed Merah. Les 3 hommes ont été arrêtés fin août en Turquie avant d'être remis aux autorités françaises.
Intersoir. Florence Paracuelos.
Ça ressemble à une capitulation en rase campagne. Ce matin sur France Inter, le PDG d'Air France, Alexandre de Juniac, disait qu'il pourrait être contraint d'abandonner purement et simplement son projet de développement de la filiale Transavia en Europe. Ce qui pourrait tout à fait convenir aux pilotes en grève depuis 9 jours. Et ce qui est aussi apparemment le scénario du gouvernement pour sortir de la crise. C'est ce qu'on a compris en tout cas en écoutant le secrétaire d'État aux transports, Alain Vidalis.
Le gouvernement a pris acte de l'opposition des pilotes, au développement notamment de Transavia Europe, un projet qui entraîne l'application de règles et de droits sociaux à l'étranger, en réalité, en fonction de l'endroit où sont basés les avions. Il faut probablement donner des garanties. Chacun mesure qu'il faut que la réflexion elle soit plus longue, plus approfondie. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce type de low cost? Là, on n'est plus sur Transavia France, on est sur autre chose. Est-ce que c'est nécessaire à l'équilibre? Et surtout, pourquoi faire? Mais ce projet étant écarté, pour que les choses soient claires, aujourd'hui, la réponse, c'est la reprise du travail.
Voilà, Alain Vidalis au micro de Cyril Sauvageau. Il faut reprendre le travail, dit le secrétaire d'État au transport. Les conditions sont réunies. Pourtant, pas de reprise pour l'instant à l'horizon. Les pilotes ont même manifesté tout à l'heure près de l'Assemblée nationale à Paris. Ils étaient entre 200 et 300 en uniforme et avec des marinières made in France sur les épaules. Et s'ils concèdent que la fin du conflit n'est pas très loin, ils attendent encore de voir le PDG d'Air France, Alexandre de Juniac. Écoutez Antoine Amar, il est porte-parole du syndicat SNPL.
Si Monsieur de Juniac est capable de dire sur les plateaux de télévision qu'il est capable de retirer ce projet, les pilotes attendent maintenant qu'il soit capable de le mettre dans un accord par écrit. Aujourd'hui, on est face à des successions de provocations, de mensonges qui font dire qu'il y a des propositions alors que la direction ne fait pas de propositions. La confiance vis-à-vis du management d'Air France KLM est aujourd'hui proche de 0. Il va falloir être un tout petit peu plus précis sur les mots. Écarter, c'est stopper. Écarter, c'est suspendre. On est sur les mots en ce moment. Aujourd'hui, le SNPL affirme qu'il nous faut le retrait du projet Transavia Europe. Il nous faut pouvoir continuer à négocier avec cette direction. Nous n'attendons que ça.
Ce pilote d'Air France au micro de Marion Lourd, un porte-parole qui ne soutient pas son candidat. C'est assez curieux, mais c'est pourtant le cas de Gérald Darmanin, le député UMP, nouveau porte-parole de Nicolas Sarkozy en campagne pour la présidence de l'UMP, soutiendra Xavier Bertrand pour la présidentielle. Donc Sarkozy pour le parti, Bertrand pour la France. Gérald Darmanin n'y voit pas d'inconvénient dans la mesure où Nicolas Sarkozy serait, dit-il, très favorable aux primaires pour 2017. C'est une victoire pour les couples de femmes et un épouvantail pour les anti-mariages gays. La Cour de cassation estime aujourd'hui que l'épouse d'une mère qui a eu recours à une PMA, c'est-à-dire à une insémination artificielle à l'étranger, eh bien, son épouse peut légitimement adopter l'enfant. 9 tribunaux avaient estimé que l'adoption dans ces cas-là était impossible, dans la mesure où la PMA est interdite en France pour les couples homosexuels. Cet avis de la Cour de cassation va donc donner une ligne à la justice pour les prochaines fois et faciliter la vie des familles, selon Caroline Mécari, avocate d'un couple de femmes à qui l'adoption avait été refusée par le tribunal d'Avignon.
La Cour de cassation a le mérite, dans l'avis qu'elle vient de rendre aujourd'hui, j'allais dire de clarifier la situation, même si en réalité, dans la pratique, la quasi-totalité des tribunaux de grande instance acceptait l'adoption de l'enfant du conjoint, y compris lorsqu'il y avait eu un recours à une procréation médicalement assistée. Mais comme il y a eu beaucoup de battages, le fait que la Cour de cassation rende cet avis clarifie la situation, sécurise la situation des femmes qui ont eu recours à la procréation médicalement assistée, et surtout, c'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui prime. Et donc, peu importe que le couple ait eu recours à la PMA à l'étranger.
La filiation qui va avec le mariage est désormais la PMA. Voilà une raison de plus pour faire abroger la loi Taubira sur le mariage pour tous, dit aujourd'hui l'UMP Hervé Mariton. Un tour de chauffe pour jauger l'état d'esprit général sur le climat. Voilà le sens du sommet de New York qui réunit aujourd'hui et demain 120 dirigeants du monde entier. Ils se reverront en décembre 2015 à Paris pour une grande conférence censée prendre des décisions pour contenir le réchauffement climatique. En attendant, François Hollande a annoncé que la France contribuerait à hauteur $1 milliard au fonds vert de l'ONU pour le climat. C'est de l'argent pour aider les pays pauvres à réduire leurs émissions en CO2 et à s'adapter aux effet du réchauffement. Ebola ou l'explosion de l'épidémie, l'OMS estime que 20 000 personnes pourraient être infectées d'ici novembre si on ne lutte pas davantage contre le virus. De son côté, un ministre libérien redoute que son pays ne retombe dans la guerre civile dont il est sorti il y a une dizaine d'années. On a une population agitée, dit-il, et le coût de la vie va grimper. En Espagne, le gouvernement de droite renonce à son projet de loi sur l'avortement. Il s'agissait de restreindre considérablement les autorisations d'avorter, y compris en cas de malformation du fœtus. Et c'était une des promesses de campagne de Mariano Rajoy. « Je crois avoir pris la décision la plus sensée », dit aujourd'hui le Premier ministre espagnol. On reparle de cet abandon dans un jour dans le monde, juste après ce journal. LCI, c'est fini. La chaîne d'info de TF1 qui n'a pas obtenu de devenir gratuite sur la TNT abandonne l'info en continu et se débarrasse de plus de la moitié de ses postes. LCI ne produira plus que quelques heures de programme par jour et seules 54 personnes continueront à y travailler. TF1 en profite également pour restructurer son groupe, Céline Aslo.
58 postes supprimés chez LCI, 81 à TF1 et 9 à ITF1, la filiale numérique. C'est une restructuration importante pour un groupe qui emploie au total 2700 personnes et qui est aujourd'hui bénéficiaire. La direction précise qu'elle favorisera les reclassements internes et qu'elle ouvrira un plan de départ volontaire pour réduire au maximum le nombre de licenciements. 148 postes supprimés donc et LCI profondément transformée. Elle ne sera plus une chaîne d'information en continu 24 heures sur 24, mais va proposer des flash-ins faut plusieurs heures de programmes inédits par jour, nous dit la direction du groupe, dans le cadre d'un projet davantage tourné vers le numérique, avec de la production de vidéos pour les tablettes et les ordinateurs. TF1 n'abandonne pas cependant l'idée de faire de LCI une chaîne gratuite. Le CSA a refusé cet été, mais le groupe va contester ce refus devant le Conseil d'État. Quant au rachat par Le Monde, par Le Figaro, l'idée est balayée par la direction du groupe, qui rappelle qu'LCI n'est pas à vendre.
Enfin, il est un secteur qui se porte bien, c'est le marché de l'art. Il n'a jamais été aussi prospère avec 2 milliards de dollars de recettes sur un an. Merci les Chinois et les Américains. On y reviendra dans le journal de 19h. En attendant, on passe à la météo.
La météo avec Orange, le réseau mobile 3G numéro 1 en France. Orange.
Orage et nuages, Joël Collado.
Un bref épisode orageux sur le midi, attendu dès ce soir sur la plupart des départements languedociens. Ces orages qui s'accompagneront localement de fortes averses se décaleront demain vers la vallée du Rhône, la Provence, les Alpes. Sur les régions de l'Est, ces nuages remontant du sud donneront tout au plus que quelques ondées. Et sur le reste du pays, demain, le temps sera plus calme, mais pas toujours ensoleillé. Sur le sud-ouest, les nuages d'altitude masqueront le soleil. Sur les régions de l'ouest, sur l'île de France et le nord, où le soleil sera moins brillant qu'aujourd'hui, les nuages qui arriveront par la Manche ne donneront que de très rares averses. Quant aux températures après une nuit un peu fraîche, surtout dans l'Est, ces températures le plus souvent comprises demain après-midi entre 17 et 20 degrés au nord atteindront 20 à 23 degrés sur le sud avec des pointes à 25-26 degrés sur la Corse.